Mesdames, Messieurs, vous écoutez Radio Prague, programme en langue française, les informations avec Magdalena Sigertova. Le candidat au poste de Premier ministre tchèque et diplomate Jan Kohout se rendra mardi à Bruxelles, où il poursuit son travail d'ambassadeur tchèque auprès de l'Union européenne. Je reste ambassadeur. Mercredi, j'assiste à la réunion du comité des représentants permanents de l'Union européenne, mais je suis prêt à revenir à n'importe quel moment à Prague, a-t-il déclaré pour l'agence de presse tchèque avant son départ pour Bruxelles. Pour l'instant, Jan Kohout se refuse de tout commentaire sur la composition du nouveau cabinet qui pourrait diriger les négociations entre les membres de l'ancienne coalition gouvernementale, la social-démocratie, le Parti chrétien-démocrate et l'Union de la liberté sur leur éventuelle collaboration se poursuivent. Nous vous en dirons plus dans Faits et événements en République tchèque. Les autorités tchèques viennent de confirmer le 18e cas de la maladie de la vache folle dans le pays. L'ESB a été détecté sur une vache âgée de 5 ans et provenant de la ferme agricole de Trehovištěpánov près de Benešov en Bohême centrale. Il s'agit du 3e cas d'ESB dépisté en République tchèque depuis le début de l'année et le premier remonte au juin 2001. Le constructeur automobile tchèque Škoda Auto, faisant partie du groupe Volkswagen, fabriquera à partir de la fin de l'année 2006 les voitures de la gamme Octavia en Chine. Pour l'instant, l'entreprise construit dans ce pays uniquement des automobiles Volkswagen. La marque espère fabriquer en Chine de 50 à 80 000 voitures de son best-seller Octavia par an. Elles seront vendues sur le marché chinois et exportées dans d'autres pays de la région. Près d'un million de téléspectateurs tchèques, les femmes et les personnes âgées notamment, ont suivi vendredi dernier en direct les funérailles du pape Jean-Paul II à Rome, a informé le porte-parole de la télévision tchèque Martin Krafl. Le 12e Festival international du film, de la télévision et de la vidéo Fébiofest, qui vient de se terminer à Prague, se déplace dès ce lundi à Brno, en Moravie du Sud, ainsi que dans d'autres villes tchèques et slovaques. Fébiofest est le plus important festival dans son genre en Europe centrale. Cette année, il a invité à Prague des pointures du cinéma tels que les réalisateurs Carlos Saura et Andrei Konchalovsky. En Slovaquie, le festival voyagera en ce mois d'avril dans 8 villes et proposera plus de 100 films d'une vingtaine de pays. La capitale Bratislava accueillera dans le cadre du Fébiofest le réalisateur polonais Andrzej Wajda. Côté météo, ce lundi, jour de fête des Isabella, le ciel a été nuageux avec de belles éclaircies. Le thermomètre a marqué de 11 à 15 degrés. Pour mardi, la météo prévoit un temps couvert avec des averses de pluie dans la moitié sud du pays. Les températures seront douces de 12 à 16 degrés. C'était les informations de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertová.
La démission du Premier ministre Stanislav Gross s'inscrit dans le projet que celui-ci a présenté en vue de mettre un terme à la crise gouvernementale et auquel le Parti social-démocrate a donné son aval pendant le week-end écoulé. Tout porte pourtant à croire que le dénouement du long feuilleton lié à cette crise ne sera ni facile ni imminent. Selon les dernières données statistiques, la dénatalité en République tchèque est l'une des plus prononcées à l'échelle européenne. Faut-il l'attribuer en partie au fait que les jeunes tchèques sont de moins en moins tentés par une vie de couple classique? Une réponse dans la suite de notre programme, dans lequel nous céderons le micro aussi à une pianiste française qui a des souches tchèques et qui a effectué une heureuse tournée dans les pays tchèques. Les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement pour mettre fin à la crise qui sévit depuis des semaines ont donc commencé le week-end écoulé. Alain Slivinski.
Pour sortir le pays de la crise gouvernementale, le Premier ministre tchèque Stanislav Gross a présenté un plan. Former un nouveau gouvernement composé de membres des trois partis qui formaient la coalition avant la crise, avec à leur tête un social-démocrate. Le Premier ministre donnera sa démission, mais les leaders des partis qui participeraient à la formation du nouveau cabinet ne pourraient pas en faire partie. Si les partenaires de l'ancienne coalition n'acceptaient pas ces conditions, la social-démocratie formerait alors un gouvernement minoritaire. Samedi, le comité exécutif de la social-démocratie a donné son aval au plan de Stanislav Gross. Dimanche, les dirigeants des trois partis concernés, donc la social-démocratie, les chrétiens-démocrates et les unionistes, se sont réunis. Résultat, l'avenir du futur cabinet, qualifié de pro-européen, se trouve toujours dans le brouillard, mais les trois formations politiques ont exprimé leur volonté de continuer les négociations. Après la démission de Stanislav Gross, ce pourrait être l'ambassadeur tchèque près l'Union européenne Jan Korout, social-démocrate, qui conduirait le nouveau gouvernement. À l'issue de la réunion de dimanche, le Premier ministre Stanislav Gross a insisté sur le fait qu'il s'agirait d'un véritable nouveau gouvernement. Nous voulons former ce nouveau gouvernement en commençant par les fondations. Les chrétiens-démocrates ont détruit l'ancienne coalition ou bien l'ont quittée. Actuellement, nous sommes à la recherche d'un modèle vraiment nouveau que nous pourrions réaliser après une telle expérience. Les chrétiens-démocrates surtout, mais les unionistes aussi, ne voient pas d'un bon œil la condition qui exclurait du nouveau cabinet les plus hauts représentants de leur parti, y compris ceux qui étaient ministres dans le gouvernement de Stanislav Gross. Une chose est certaine, les trois formations sont d'accord sur le fait que le nouveau gouvernement pro-européen, s'il voit le jour, ne comptera pas sur les communistes, comme le confirme d'ailleurs le président de l'Union de la Liberté, Pavel Nemets. Je ne dis pas que je suis optimiste ou pessimiste. Nous nous sommes mis d'accord sur la poursuite des discussions, que cela en valait la peine pour former un gouvernement pro-européen qui s'appuierait sur des formations politiques démocratiques à la Chambre des députés. Un gouvernement à l'avenir et la composition très vague et des discussions qui se poursuivront cette semaine à partir de mardi.
En septembre dernier, le ministère du Travail et des Affaires sociales a rendu son rapport national sur la famille, qui brosse le tableau de l'état des familles en République tchèque. Ce rapport doit servir de base au gouvernement dans son élaboration en 2005 de sa politique familiale. Quelles en sont les conclusions les plus marquantes, Anna Kubista?
Pour le meilleur et pour le pire? Sans doute, mais pas à n'importe quel prix non plus. C'est ce raisonnement qui explique sans doute la montée en flèche en seulement 15 ans du pourcentage de jeunes couples tchèques qui, plutôt que de se précipiter pour se passer la bague au doigt, préfèrent d'abord vivre quelque temps ensemble. À l'heure actuelle, ces couples à l'essai représentent 55% contre 10% auparavant. Pendant la période communiste, le régime en Tchécoslovaquie avait mené des politiques familiales encourageant un modèle classique de la famille nucléaire et une natalité élevée, notamment dans les années 70. 1989 et la chute des régimes totalitaires expliquent ce brusque saut de la société tchèque d'un modèle à l'autre. Aux changements économiques radicaux correspond l'adoption de modèles et de comportements culturels et sociaux similaires à ceux déjà enclenchés dans les pays occidentaux. Le rapport national sur la famille révèle ainsi le schéma type du nouveau couple tchèque. Cet essai de vie à deux avant le mariage, ce sont plutôt des couples aux idées non conservatrices qui choisissent de le faire. Il s'agirait plutôt de personnes au-delà de 25 ans et souvent d'étudiants ou de personnes qui ont un niveau d'éducation universitaire. Ce sont des personnalités plus indépendantes, qui ont moins d'enfants et plus tardivement. Ils habitent plus volontiers dans leur propre appartement, au contraire d'un cinquième des couples mariés qui n'ont pas vécu cette période d'essai et qui sont plus nombreux à partager leur logement avec les parents d'un des deux partenaires. 3 ans, c'est la durée moyenne pendant laquelle les Tchèques sortent ensemble avant de se marier, mais en ayant comme projet à long terme de vivre ensemble au bout du compte. Cette catégorie de population est donc de celles qui ne considéreraient pas le mariage comme une fin en soi. Selon l'étude du ministère du Travail et des Affaires sociales, il découle de ces types de couples que d'un côté, ils ne sont pas réfractaires à la vie à deux ou au mariage dans l'absolu, mais qu'en même temps, ils n'excluent ni le divorce ni le remariage. Néanmoins, cette volonté d'essayer son couple, de faire un bout de chemin ensemble et de tester si l'élu de son cœur l'est vraiment avant de faire le grand saut, tendrait plutôt à démontrer un besoin de s'engager en connaissance de cause et sur des bases solides, le mariage venant plus comme une confirmation que comme une obligation. La société change et la forme du couple aussi. Cette évolution des mœurs sera particulièrement intéressante à étudier à long terme lorsque ces premières générations de couples à l'essai auront ou n'auront pas une autre quinzaine d'années derrière eux à leur actif.
C'est à la fin de sa tournée en Moravie, dans les villes de Třebíč, Litomyšl et Šumperk, que la pianiste française Muriel Bérard s'est arrêtée à Prague. Václav Richter a profité de ce court séjour pour la rencontrer.
Le public tchèque est très 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 chaleureux et surtout très attentif. J'étais très agréablement surprise, surtout que mon répertoire était basé pour la moitié sur de la musique française, donc du Ravel et les miroirs de Ravel. Et c'est vrai que pour un public non averti de cette musique-là, c'est un répertoire assez difficile et le public a été vraiment très 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 attentif et très très agréable.
Vous avez vécu et étudié en Russie. J'ai lu quelque part que vos ancêtres étaient d'origine tchèque. Est-ce que vous vous sentez attiré par la culture et la musique slave ?
Complètement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'étudier au Conservatoire de Moscou pendant 2 années. Et en fait, une partie de la famille de ma maman est née en Bohême. Donc, mon arrière-grand-mère est née ici. Donc, c'est vrai que c'était pour moi une grande expérience de venir quelque part retrouver ces racines-là. Et j'ai pour objectif de trouver des partitions de Martinu de Janáček et d'essayer de faire connaître cette musique en France. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la chance ni d'obtenir les partitions, ni d'écouter cette musique au concert. Et ça m'a vraiment donné envie de faire des recherches là-dessus.
Est-ce que vous aimeriez aussi jouer cette musique ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je compte trouver les partitions pour la jouer.
Je vous recommande donc aussi de faire découvrir au public français, par exemple, Smetana, Souk, ou encore peut-être d'autres musiciens tchèques comme Korte, qui ont écrit pour piano.
C'est vrai que j'attends avec impatience que quelqu'un me procure ces partitions-là, et je vais essayer de trouver ça dans des magasins ici. Mais en tout cas, il y en a tchèque aussi, je crois qu'il a composé des sonates pour piano, et qui sont absolument inconnues en France.
Il a composé une sonate, qu'il a détruite lui-même, et qu'il a été retrouvée après, mais il y a aussi un cycle dans les brumes, Janáček, qui est très connu, et puis sur le sentier Broussaille, il y a un autre cycle de petites compositions pour piano qui est très beau.
J'ai eu la chance de voir la maison natale aussi de Martinu et de Smetana, donc maintenant j'espère connaître leur musique plus profondément.
Quand j'étais jeune, on disait un peu méchamment que le meilleur pianiste français était Sviatoslav Richter. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une génération de pianistes français qui est à la hauteur de cette grande musique pour piano qui a été composée par Debussy, Ravel, Forêt, peut-être, Messiaen.
J'espère, j'espère que oui. C'est vrai que la musique française nécessite, je dirais pas une école ni une technique particulière, mais j'ai senti ça très profondément à Moscou. Il y a une approche du son, une approche de une recherche de couleurs, de palettes sonores qui est complètement différente en France des autres pays. Et pour jouer cette musique-là, c'est vrai que cette école française est quand même très importante. Donc j'espère qu'il y a effectivement une génération de pianistes français qui est à la hauteur de cette musique.
Vous travaillez dans le centre d'insertion pour les artistes lyriques à Marseille. Dans quelle mesure l'opéra, le chant peut enrichir votre carrière de pianiste ?
En fait, je ne travaille plus dans ce centre-là. J'ai appris le métier de chef de chant dans ce centre-là. Mais maintenant, c'est vrai que j'essaie de partager mon temps entre les concerts solo et le métier de chef de chant à l'opéra. C'est vrai que la première chose, c'est humainement. Ça m'enrichit énormément humainement. Parce que c'est vrai qu'un pianiste est toujours confronté à la solitude derrière son piano, au travail seul, à la solitude en concert. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc c'est vrai que la première nécessité pour moi, c'est de communiquer, d'arriver à partager avec d'autres musiciens. Donc ce métier me permet d'abord ça. Et ensuite, c'est vrai que le répertoire lyrique ou de travailler avec des chanteurs, on apprend beaucoup plus en tant qu'instrumentiste la respiration, tout simplement, la respiration et le chant. Et l'école russe m'a appris, mon professeur en Russie me disait toujours, le plus important c'est la liberté et le souffle dans ce que tu joues au piano. C'est vrai que je ne comprenais pas à cette époque-là ce qu'elle voulait dire. Et maintenant, du fait de mon travail avec les chanteurs, je sais exactement ce qu'elle voulait me faire comprendre.
C'était les faits et événements en République tchèque, un peu court comme chaque lundi, mais notre programme se poursuit.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Le 22 février dernier, Miroslav Tsaban est devenu le premier alpiniste tchèque de l'histoire à avoir accompli les Seven Summits, étonnant défi qui consiste à gravir les sommets les plus hauts des sept continents de la planète. Actuellement, Miroslav Tsaban se trouve au Népal à la tête d'une expédition de sept membres en quête d'une haute performance d'envergure. S'il parvenait au sommet du Mont Everest pour la deuxième fois de sa carrière, il deviendrait par la même occasion le deuxième alpiniste au monde à avoir enchaîné les sept sommets en un an sans oxygène. Avant que l'alpiniste ne prenne la direction de Katmandou au Népal, nous l'avons rencontré pour qu'il nous raconte son aventure. Confortablement assis sur l'épais canapé d'un salon de thé du centre de Prague, Miroslav Tsaban est d'abord revenu sur une année qu'il a donc vue depuis le mont McKinley en Amérique du Nord en juin 2004 jusqu'au mont Kosciuszko en Australie en février 2005, grimpé sur les toits de six continents.
Tak první vrchol, který jsem lezl, abych to splnil v jednom roce, což ještě tehdy.
Le premier sommet que j'ai gravi a été le McKinley en Amérique du Nord en juin. C'était magnifique, sauf que j'ai été surpris par la météo. Il faisait chaud et pendant les deux premiers jours, il a plu. La deuxième montagne a été l'Elbrus, plus haut sommet européen en juillet. Là-bas, j'ai été décontenancé par le fait que l'Elbrus ressemble pratiquement à une longue piste de descente de ski. Vous marchez dans la neige et il n'y a absolument aucune difficulté technique. D'un autre côté, il est nécessaire de bien s'acclimatiser parce que le temps peut changer très vite. Et du coup, le grimpeur peut rencontrer de gros problèmes. Ensuite, en décembre, je suis passé au Kilimandjaro, pour le continent africain. C'est une montagne très intéressante en raison de sa forêt tropicale brumeuse. Il y a une telle humidité que même aucun animal n'y vit. En plus, nous avons rencontré des problèmes à l'approche du sommet à cause de plaques de glace et nous n'avions aucun matériel prévu à cet effet, ce qui a rendu l'ascension encore plus intéressante, surtout que notre guide, qui est obligatoire en Afrique, avait perdu son chemin. Ensuite, nous nous sommes envolés pour l'Antarctique et le mont Vinson. Ce fut assez exceptionnel à cause de la neige et des incroyables masses de glace qu'il y a. Par exemple, la glace sur laquelle nous avons atterri avait 1600 mètres de profondeur. Non, pas d'épaisseur, mais bien de profondeur. Se promener en Antarctique nous a donc procuré une grosse dose d'adrénaline. Pour l'ascension, nous avions choisi une voie relativement difficile, mais malgré cela, nous sommes quand même parvenus au sommet. De là, nous avons pris la direction de l'Aconcagua, plus haut sommet d'Amérique du Sud. Comme nous étions déjà acclimatisés, après le mont Vinson, l'ascension a été magnifique. Nous avons pu profiter de toute la beauté et de la palette de couleurs qu'offre la cordillère des Andes. D'ailleurs, je dis toujours que les Andes sont les montagnes les plus colorées du monde. C'est quelque chose d'époustouflant. Ensuite, après le retour en République tchèque, j'ai décidé de me rendre seul en Australie pour le mont Kosciuszko. Mais c'était presque ridicule, parce que le sommet dépasse à peine les 2000 mètres et qu'il y a une route qui mène pratiquement jusqu'au sommet. Il était donc impossible de trouver un endroit pour au moins un peu escalader. Le dernier sommet a donc été le plus facile.
À ce propos, rappelons qu'il existe une polémique sur l'identité du plus haut sommet en Océanie. En effet, si certains considèrent que le mont Kosciuszko est la cime la plus élevée, d'autres en revanche ne sont pas d'accord avec cette théorie. Car pour ces derniers, géographiquement, l'Océanie ne se limite pas à l'Australie, mais s'étend aussi sur un important nombre d'îles. Parmi celles-ci se trouve la Nouvelle-Guinée, où se dresse la pyramide de Karsten, haute de 4884 mètres. À l'origine, ces considérations n'importaient que peu à Miroslav Tsaban. Initialement, les sept sommets, projet également baptisé Couronne de la planète, ne devaient servir que de préparation à un défi d'une toute autre envergure, le 448. Explication par Miroslav Tsaban.
Měl jsem v plánu právě, tak jak říkáte,
au départ, les sept sommets devaient constituer une préparation pour une tentative de record du monde. Je voulais être le premier alpiniste au monde à gravir quatre sommets à plus de 8000 mètres en 4 mois. Malheureusement, ce record en est resté à l'état de projet. Au mont Elbrus, je me suis cassé la main lors d'une chute et cette blessure m'a empêché de réaliser ce que j'avais en tête. Cette blessure était d'autant plus gênante que parmi les quatre sommets que j'avais prévus, il y avait le K2, qui est la montagne la plus difficile au monde. Or, cette ascension était impossible sans des mains et des bras sur lesquels je pouvais compter à 100%.
Bez 100% funkčnosti ruky se ten projekt nedal absolvovat.
Finalement, l'Everest ne constituera donc que le seul sommet à plus de 8000 mètres. Un sommet que l'alpiniste connaît déjà, puisqu'en mai 2002, il était devenu le deuxième tchèque de l'histoire à le conquérir sans oxygène. Une expédition que Miroslav Tsaban n'a bien entendu pas oubliée, pas uniquement pour des raisons sportives, mais aussi humaines. L'ascension du toit du monde, il l'a en effet effectuée presque main dans la main, avec deux autres alpinistes français qu'il ne connaissait pas.
No, bylo zajímavé s těma dvouma Francouzi. Vlastně my jsme měli vedle sebe stany.
Oui, c'était très intéressant avec ces deux Français. Nos tentes étaient plantées l'une à côté de l'autre. Nous ne nous sommes pas beaucoup visités. Nous faisions seulement signe de temps en temps pour nous saluer. Mais en fait, nous avons fait pratiquement toute l'ascension ensemble jusqu'au sommet. C'était assez drôle. Nous ne parlions presque pas ensemble. Nous ne pouvions pas tellement. Mais nous nous sourions. Nous donnions quelques tapes dans le dos et nous relayions pendant la montée. Ensuite, nous nous sommes encore rencontrés à Katmandou, mais sinon, nous sommes loin les uns des autres, même si nous nous sommes envoyés des photos prises au sommet. C'est très agréable de savoir que, même si nous ne nous connaissons pas personnellement, nous avons été au sommet de l'Everest ensemble.
Prakticky, když se neznáme úplně až soukromí nebo v lezení, tak jsme byli spolu na vrcholu Everestu.
C'est donc la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.
Un peu de musique quand même. Jarka Gisubelova.
Comme vous pouvez vous en douter, d'après ces premiers temps, l'édition d'aujourd'hui du magazine musical de Radio Prague appartient aux instruments populaires et notamment à la cornemuse, témoin de la culture celte sur notre territoire. Je vous propose d'écouter quelques-unes des mélodies du compact disque intitulé « Les plus belles chansons populaires tchèques ». La première chanson chante la ville de Domažlice, en Bohême occidentale où la tradition de la cornemuse est toujours vivante grâce à l'ethnographe Josef Rejni. Ce dernier, lui-même joueur de la cornemuse, a fondé une école à un festival de cornemuseurs. Sa première édition internationale a eu lieu à Strakonice en 1967. Depuis déjà 10 ans, le festival est placé sous le patronage du Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel. Chaque année, il accueille des ensembles d'Europe et d'outre-mer.
Thank you.
Viera Rosipalova a interprété la chanson intitulée « J'aime un homme qui porte du massepain dans sa poche ». L'ensemble qui l'accompagne, Usmiev le sourire, s'est présenté au festival en Belgique, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Grande-Bretagne et plusieurs fois en France dernièrement au festival folklorique de Bretagne. Je planterai un mai au-dessous de tes fenêtres pour faire mes adieux à toi, ma chérie, était le titre de la chanson qui a refermé ce magazine et toute notre émission d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.